Vous êtes entre les lignes, le rendez-vous du livre et de l'écriture sur Espace 2. Annick Chouin, Jean-Marie Félix, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Sylvia Ricci-Lempone. Soyez les bienvenus. Notre invitée est née à Rome et se dit volontiers suissesse d'adoption. Philosophe de formation, elle est devenue journaliste et écrivaine. Elle a beaucoup œuvré pour la cause féministe sur le plan des idées, mais aussi en appliquant ses convictions au sein de différentes associations. Une attention portée aux femmes, certes, et plus généralement aux autres. En tant que journaliste et femme d'opinion, Sylvia Ricci-Lempone a fait entendre sa voix dans différentes parutions ou organes de presse, tels que le quotidien Le Temps. Son œuvre littéraire comporte plusieurs romans. Les trois premiers ont été distingués, prix Michel Dantan, prix Schiller, prix Paul Buderi. Et en ce printemps 2012, Sylvia Ricci-Lempone a publié aux éditions de L'Air un récit polyphonique intitulé « Une croisière sur le lac Nasser ». Et c'est ce roman que nous avons placé au cœur de nos interlignes. Bonjour Sylvia Ricci-Lempone.
Bonjour.
En consultant votre site personnel sur la toile, j'ai appris que vous étiez en train de vous réapproprier votre langue maternelle comme langue d'écriture. C'est intéressant ce terme réappropriation, il vous appartient d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est se réapproprier sa langue maternelle ?
Eh bien, il faut savoir que tout en étant de langue maternelle italienne, j'ai toujours écrit et travaillé en français. Et il y a eu un moment de ma vie, assez tardivement du reste, où j'ai vraiment ressenti le besoin de récupérer l'italien comme langue d'écriture, ce que je n'avais jamais fait. Et donc, courageusement, parce qu'il faut du courage.
C'est un apprentissage ?
C'est un réapprentissage complet, parce que sur le plan littéraire, l'italien, pour moi, était quasiment une langue étrangère. Et j'ai écrit un roman en italien qui va d'ailleurs sortir en Italie tout bientôt, au mois de novembre.
Et puis un de vos romans a été traduit en italien, mais voilà. Pas par mes soins.
J'avais souhaité qu'il soit traduit par quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que cette traduction d'un de mes romans en italien m'a donné une espèce de coup de fouet. J'ai vraiment envie d'essayer de voir ce que ça donne si j'écris directement en italien.
Sur ce même site, qui est décidément très éclairant, vous déclarez que vos livres vous ont valu de brefs moments de notoriété et des traversées du désert, ce sont vos propres termes, mais par-dessus tout le sentiment réconfortant que quoi qu'il arrive, il y aura toujours une lectrice ou un lecteur quelque part. Alors ça pose la question de la démarche de l'auteur que vous êtes, écrire pourquoi, mais surtout pour qui. Est-ce que vous y pensez lorsque vous êtes devant votre table d'écriture ?
Alors, c'est une question évidemment extrêmement difficile. Je crois que toutes les réponses ont déjà été fournies par mains autres écrivains.
Mais vous pourriez peut-être apporter la vôtre.
Oui, alors je dirais que je n'ai pas en tête un lecteur ou une lectrice particulier quand j'écris. J'essaie vraiment de construire une œuvre littéraire. Mais comme tous les écrivains, ou presque tous en tout cas, j'ambitionne quand même d'être lu. Donc, il y a là un point d'équilibre extrêmement subtil que chaque écrivain résout à sa manière. Pour ma part, une fois, j'avais écrit dans Feu, la revue Écriture, un texte qu'on m'avait demandé sur « Pour qui écrivez-vous ?». Et là, j'avais répondu que j'écrivais, au fond, pour ceux que j'aurais aimé pouvoir considérer comme mes pères en littérature, c'est-à-dire des écrivains et des écrivaines que j'admire et dont j'aimerais être lu et apprécié, même si en fait ils sont peut-être morts, disons. C'est pas un vœu réaliste, c'est un vœu virtuel, disons.
Comme la toile d'ailleurs.
Voilà.
Sylvia Ricci-Lempone, nous aurons l'occasion bien sûr de revenir sur ces questions essentielles et peut-être aussi existentielles liées à l'écriture au cours de l'heure qui suit, en feuilletant votre dernier roman, Une croisière sur le lac Nasser, et nous allons le faire avec Annick Chouin. Bonjour Annick.
Bonjour Jean-Marie.
Pour que nos auditeurs, sans doute idéaux, pour certains, se sentent concernés par notre conversation, un bref résumé du livre s'impose.
Le lecteur idéal, Jean-Marie.
C'est un terme que j'aime beaucoup, le lecteur idéal. Il y a aussi l'auditeur idéal.
Ah, Une croisière sur le lac Nasser. Donc le titre nous promet quelques beaux paysages et des millénaires d'histoire, mais ce sont, Sylvia Ricci-Lempen, les consciences que vous sondez dans ce roman qui se déroule à huis clos, malgré la passerelle qui relie de temps à autre le bateau à la terre ferme. Un huis clos dans un temps donné, entre le 10 et le 14 novembre 2008. Une sensation d'enfermement accentuée par la chaleur et par le parti que vous avez adopté, faire entendre en alternance les monologues intérieurs de quatre passagers, membres d'un groupe de voyageurs individuels francophones. Vous insistez, on le verra. Il y a Marlène, la vieille dame solitaire rongée par un chagrin, et Charles-Étienne, éternel cinquième roue du char, ou encore le 13e à table, un homme mal dans sa peau, blême. Tous deux vont tisser des liens inattendu. Il y a Marie qui explose d'une sensualité un peu brutale, presque vulgaire, et dont le désir va croiser celui de Luis, le séducteur au léger accent espagnol. Autour d'eux, comme des ombres plus ou moins présentes, parfois pesantes, d'autres passagers, et alors cette fois ombres furtives, les employés indigènes, les employés nubien. Il y a Sylvia Ricci-Lempen de la cruauté dans l'air et peut-être même un drame à venir. On le verra, mais on ne le dira pas, certainement. Sylvia Ricci-Lempen, donc on embarque sur un bateau de croisière. Tout à l'heure, Jean-Marie vous disait, est-ce que vous avez votre lecteur en tête? Alors quand vous commencez comme ça un roman, vous avez pensé l'écrire, j'allais dire, sur un bateau, le faire vivre sur un bateau?
Non, le roman, la jeunesse du roman est différente. J'avais très envie de raconter une fois une histoire d'un désir partagé entre un homme et une femme, mais qui ne se le disent pas et qui ne peuvent pas se le dire à cause des circonstances qui les réunissent dans un lieu de vacances, chacun ayant des empêchements à manifester son désir. J'avais envie de raconter cette histoire-là. Et d'ailleurs, j'avais commencé à l'écrire dans d'autres contextes. Et je trouvais que les contextes n'étaient pas à la hauteur de ce que je voulais raconter.
Alors, Jean-Marie, vous disiez, pour qui écrivez-vous? Ça implique une autre question. Que vouliez-vous écrire? Alors là, apparemment, parce que peut-être en lisant votre livre, on ne se dit pas que c'était l'essentiel de ce que vous cherchiez à lire. Mais au départ, c'était la relation entre un homme et une femme qui ne peut pas se concrétiser. C'est ça, tout simplement.
Partagé.
Je t'aime, moi non plus. Enfin, non, j'ai envie de toi, moi non
voilà,
plus.
C'était ça mon idée. C'était une idée, au fond, de la difficulté de communiquer entre deux individus qui sont pris chacun dans un système différent. Et il se trouve que j'ai fait une croisière sur le lac Nasser et que en rentrant de cette croisière, je me suis dit, ça y est, c'est là que ça va se passer.
Vous avez fait une croisière de ce type-là, c'est-à-dire éminemment touristique,
Alors,
entre la piscine, le transat.
J'ai fait exactement cette croisière, absolument.
Et tout ça emballé en 3 jours et demi.
Oui, absolument. Et ça a donné lieu à toutes sortes d'autres réflexions. Toutes n'ont pas pu trouver place dans le livre, mais c'était effectivement une parenthèse complètement surréel dans mon existence.
Vous avez écrit pendant cette croisière?
Non, pas du tout.
Pas de monologue intérieur?
Ah non, pas du tout. En tout cas, pas transposé sur la page.
J'ai
juste joui de l'instant présent pendant que je faisais cette croisière. Puis voilà, il m'est apparu que c'était le cadre idéal pour mon histoire.
À propos de cadre idéal, les touristes qui se trouvent sur ce bateau ne voient pas grand-chose en fait. C'est ce que vous avez observé. Ouais. Je parlais des paysages, de l'histoire qui les entoure. Ils ne regardent pas grand-chose.
Alors écoutez, ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est qu'au fond, chacun reste un peu autistiquement dans son propre monde. Et l'Égypte, que ce soit l'Égypte historique, l'Égypte antique ou l'Égypte actuelle, ont un rôle purement fonctionnel de cadre, de toile de fond. Mais au fond, en visitant ces lieux extraordinaire, aussi bien sur le plan naturel que sur le plan historique, les gens restent obsessionnellement enfermés en eux-mêmes. Et c'est ce que j'ai observé, d'ailleurs, aussi chez moi-même. Je ne suis pas très différente de ces touristes, même si je ne ressemble à aucun d'entre eux. Mais je ne suis pas très différente dans mon égocentrisme occidental, préoccupée par mes petites affaires. C'est quelque chose de très vécu à la première personne aussi.
Ce qui rend aux touristes une petite part d'humanité comme ça, parce qu'au fond, la description est assez terrible, on le verra, de tous ces personnages, leur propre description, leurs pensées. Mais au fond, vous les aimez bien quand même parce qu'ils sont comme nous.
Moi, je suis absolument pas dans le registre de la caricature qui est adopté par certains écrivains qui se moquent de certains phénomènes de société comme par exemple le tourisme de masse. Non, moi, je n'aime pas la caricature ni le genre du conte. J'aime vraiment essayer de plonger dans des consciences plus ou moins ordinaires telles qu'elles sont vraiment et qui ne sont pas ni aussi bonne ni aussi mauvaise qu'on peut l'imaginer.
Ce qu'on retrouve dans vos autres ouvrages, en particulier Un homme tragique, vous avez bien choisi le terme d'ailleurs, tragique, ça veut dire que vous ne le condamnez pas totalement,
non,
par exemple.
Non, je suis jamais dans le binarisme, je pense que l'humanité est trop complexe pour ça.
Nous sommes sur un bateau, donc un lieu plus ou moins clos, mais assez clos, on est à l'intérieur des consciences, on le verra encore. Et puis, il y a la temporalité. Tout se passe en lundi 10 au soir, novembre 2008, donc avant les révolutions arabes.
Avant, oui, oui.
Après, plus de tourisme.
D'ailleurs, je fais à un certain moment une allusion à la place Tahrir, sans la mentionner, parce qu'en fait, le personnage qui pense à cette place qu'il a traversée en visitant le Caire, c'est un personnage qui, n'ayant pas vécu les événements de la Révolution, n'a aucune raison de se souvenir qu'elle s'appelle Tahrir.
Alors, lundi soir, soir 10 novembre 2008, et s'achève sur le tarmac de l'aéroport le 14 novembre au petit matin. Alors là aussi, un temps, j'allais dire, clos.
Oui. Oui, oui, unité de temps, unité de lieu.
Tiens, je me croyais, c'est le moment du bac.
Unité d'action aussi, peut-être, c'est
unité
une vraie tragédie.
Unité d'action, c'est vrai.
C'est quoi l'unité d'action? C'est aller à la piscine.
Panique.
Bah, sur le bateau.
Je sais bien que le bac
sur
est
le
loin,
bateau.
Enfin, quand
non,
même.
Non, sur le bateau, unité d'action. Mais pas unité de pensée, peut-être.
Non, alors, diffraction totale de la pensée, effectivement.
Sylvia Ritchie-Hempen, nous allons donc embarquer maintenant, il est temps, il est l'heure, sur les pages de votre roman Une croisière sur le lac Nasser, en écoutant un premier extrait situé au début du récit. Le personnage nommé Marlène s'y exprime. C'est une vieille dame veuve et solitaire que les circonstances de la vie n'ont pas épargnée, nous disait tout à l'heure Annick. Et c'est la comédienne Heidi Kipfer qui va prêter sa voix à Marlène.
À cette table, nous sommes tous des clients de Farid, le guide des voyageurs francophones individuels. Sauf mon voisin de gauche, d'après ce que j'ai compris. Il avait un problème, je ne sais pas lequel, que quelqu'un d'autre a résolu pour lui. Il s'est assis docilement près de moi, la seule place libre, car tous les autres sont par deux. C'est un rouquin, squelettique, chlorotique. Pas fichu de remarquer que je suis gauchère. Son coude pointu heurte le mien à chaque bouchée. Je ne suis pas sûr qu'il comprenne le français. La souffrance d'être laid peut noyer le cerveau. Vincent était si beau quand il était petit garçon. Les gens disaient « Les fées se sont penchées sur son berceau. » Gracieux comme une fille, bouclé comme un ange. « Sage comme une image !» s'extasiaient les maîtresses. Mais moi, pour qui l'expression était nouvelle, qui ignorait encore certaines subtilités de cette nouvelle langue devenue la mienne, car l'autre, je voulais la renier, l'oublier. Moi, je pensais à ein Bild. Mais l'enfant vrai, sa peau faussement douce, n'absorbe pas les caresses. Il n'a jamais accepté de croire au Père Noël. J'aurais dû ne jamais dormir, le veiller toutes les nuits, pour empêcher cette chose qui a bien dû se passer, puisque quand il est né, rien ne le distinguait, ni main à six doigts, ni bec de lièvre, ni anomalie cardiaque comme celle diagnostiquée à mon frère mort, rien ne le distinguait des bébés ordinaires. Pour empêcher qu'une mauvaise fée se penche sur son berceau et lui inocule du poison dans le sang.
Sylvia Ricci-Lempone, dans ce que dit Marlène, il y a beaucoup d'éléments qui, à ce stade de la narration, restent obscurs pour le lecteur. On va en apprendre beaucoup plus sur ce personnage au fil de la lecture. Dites-nous quand même en quelques mots qui est ce personnage Marlène, qui, selon moi, est quand même le plus sympathique des quatre personnages qui s'expriment dans ce livre.
Alors, ça me fait plaisir que vous trouviez que c'est le plus sympathique, parce qu'il l'est aussi pour moi. Ouais. C'est une vieille dame née en 1932 en Allemagne, qui a donc vécu la guerre comme enfant, qui a perdu un jeune frère d'une maladie cardiaque à l'âge de 9 ans, qui a été absolument pas en état de participer à ce qu'on a appelé la reconstruction en Allemagne, qui a éprouvé le besoin de fuir. Sa famille avait adhéré à la politique nazie. Tout lui paraissait insupportable dans ce pays qui était sorti de ce régime, mais où les traces en restaient tellement présentes. Et voilà, elle part en Suisse et là, elle mène une vie que je dirais assez morose. Elle épouse un homme qu'elle n'aime pas particulièrement, juste pour faire une fin. Et elle a un enfant, ce Vincent, dont elle parle dans l'extrait que nous venons d'entendre, qui lui donnera bien des désillusions et qui notamment entrera dans un conflit extrêmement violent avec son père, donc le père de l'enfant, le mari de Marlène. Et voilà, je ne vais pas raconter la suite de l'histoire.
Surtout
mais
pas.
C'est,
on a déjà beaucoup d'éléments, voilà. Là, Annick.
Oui, justement, précisément, beaucoup d'éléments. Mais il faut le souligner, ces éléments n'apparaissent que petit à petit à travers le monologue intérieur de Marlène. Et c'est ça, une des forces de ce roman, Sylvia Ricci-Lempone, c'est que les choses apparaissent par petites touches. Alors, ces personnages, il y en a quatre, je le rappelle. Il y a Marlène, il y a Charles-Étienne, un célibataire vieux garçon mal dans sa peau, je le disais. Marie, celle qui désire la bombe sexuelle au fond du bateau, et puis Luis, le séducteur,
gosse.
Le beau gosse, espagnol, j'allais
le
dire,
tombeur.
Italien, oui, le tombeur, l'hidalgo, évidemment. comment avez-vous choisi vos personnages ?
C'est une question difficile, parce qu'un personnage, on ne le choisit pas abstraitement à l'avance, il se construit petit à petit. Bon, aucun de ces personnages n'a un modèle précis dans ma tête, mais c'est clair que chacun d'eux renvoie à des personnes, à une synthèse de personnes que j'ai eu l'occasion de croiser. En fait, comme je l'ai dit au début de l'émission, les deux personnages qui se sont construits le plus vite, qui se sont imposés le plus vite, sont les deux, Louis et Marie, puisque mon idée de départ, c'était de centrer sur eux l'histoire. Je voulais raconter l'histoire d'un homme marié et d'une femme pas vraiment libre, qui se rencontre dans un lieu de vacances et qui aimerait non pas construire une grande histoire d'amour, mais qui aimerait juste coucher ensemble. Et voilà, c'était ça mon idée. Donc eux, ils ont émergé plus vite. En ce qui concerne les deux autres, il se trouve qu'ils constituent une sorte de pendant des deux premiers, dans la mesure où les deux premiers sont des gagnants dans l'existence, hein, ou en tout cas pensent l'être. Marie, nous ne l'avons pas encore dit, mais c'est une chef de cuisine qui vient d'obtenir pour son restaurant sa première étoile au Michelin. Là, j'avais très envie de créer ce personnage de chef de cuisine, parce que j'adore faire la cuisine. Et puis, je cherchais un métier sensuel, hein, sensuel comme elle. Donc, et puis, je voulais que ça soit une femme à succès.
D'ailleurs, son restaurant s'appelle Le Mi-Ciel.
Oui.
Là, on est
oui,
au
oui.
septième ciel. Enfin,
oui,
presque.
Oui,
c'est
tout à fait.
Sixième et demi.
Tout à fait. Les deux autres ont été peut-être plus laborieux à construire. Mais, voilà, il y a des petites choses auxquelles je me suis accrochée au moment où ils étaient encore relativement fumeux dans mon esprit. Et petit à petit, ils se sont développés un peu par eux-mêmes.
Parce que vous leur avez donné à chacun des caractéristiques très, très, très claires, très imagées. Il y a la couleur des cheveux de chacun.
Ouais.
Charles-Étienne, qui est quand même un personnage physiquement difficile, maigrichon et roux. Et puis, il y a les prénoms aussi. Alors quand même, ça, c'est pas innocent. Marie, pour, je vais l'appeler un peu facilement, la désirante.
Oui, voilà. Oui.
Marie pour la désirante, c'est pas mal ça quand même. Charles-Étienne, d'où sort-il celui-là au nom bourgeois?
Alors, j'ai observé chez plusieurs de mes connaissances proches ou plutôt lointaines que on a tendance à donner ces doubles noms un peu ronflants à des enfants qui paradoxalement ont un handicap à remonter. Je connais au moins 4 cas de
donc
ce genre.
Donc on pressent le handicap ou on l'impose?
Alors évidemment, ça fait cercle vicieux. C'est des prénoms qui sont lourds à porter. Dans l'occurrence, la mère de Charles-Étienne n'est pas un enfant désiré, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois qu'il utilise vis-à-vis de lui-même à un certain moment l'expression ardemment non désiré. C'est un accident à la suite duquel le père a quitté sa mère. Donc, le handicap à remonter est très très lourd.
Il est toujours en trop.
Il est en trop partout. Mmh. Il est en trop partout. Et justement, j'ai voulu suggérer que sa mère, en lui donnant ce prénom-là, c'était à moitié une tentative de revanche et à moitié une revanche plus ou moins, une vengeance plus ou moins subconsciente à l'égard de cet enfant qu'elle ne voulait pas.
Rien d'innocent dans un livre, même pas les prénoms,
non,
hein, Sylvia Ritchie-Lempen.
Je pense, oui.
À part ça, tous les prénoms composés ne sont pas difficiles à porter. Jean-Marie, c'est très facile, je peux en témoigner.
Oui, mais Jean-Marie, c'est un prénom qui se porte très bien, mais vous aimeriez pas vous appeler Charles-Étienne.
Je n'ai pas envisagé cette hypothèse de travail.
Alors, il y en a un dont vous n'avez pas parlé, c'est le quatrième personnage de ce roman. Enfin, il y en a d'autres, mais en personnage secondaire. C'est Louise, parce que c'est un journaliste grande gueule, vous n'osez pas?
Vous m'avez pas posé de questions. Vous m'avez pas posé de questions.
Alors,
sur
Louise.
Louise, oui. Pour Louise aussi, j'ai quelques idées en tête de personnages qui exercent cette profession un peu à la manière dont il le fait. C'est quelqu'un d'assez prétentieux. C'est quelqu'un qui a du succès. Mais enfin, c'est pas un roman à clé, hein. Je pense pas à quelqu'un de tout à fait précis, mais il y a des modèles de Louis, dans le sens où il y a quand même dans les médias, surtout audiovisuels, certains personnages qui aiment à se faire un peu mousser. Et puis il y a cet aspect quand même de machisme chez Louis qui est quand même assez présent. J'ai pas voulu en faire une caricature de macho, pas du tout. Mais on sent au détour de ses pensées que foncièrement, il se fait une idée pas vraiment égalitaire des femmes, notamment quand il dit à un certain moment à l'antenne faut pas un doctorat, faut des couilles, ça dit ce que ça veut dire.
Mais dans le monde politique français, on a entendu ça récemment pendant les élections.
Et pour la féministe que vous êtes, c'est une douleur ou plutôt une jouissance d'écrire une telle phrase dans la bouche d'un personnage?
Ça m'a beaucoup amusée, mais encore une fois, moi je n'ai jamais écrit des romans à thèse, jamais. Je déteste ça, donc mes romans sont jamais et ne seront jamais des manifestes féministes, mais ça m'a amusé de construire un personnage dont le machisme est à fleur par moment. C'est pas sa caractéristique principale.
Bon, des fois, mais il est très fleuri quand même.
Ouais, ça fait partie du personnage, mais en même temps que d'autres caractéristiques comme le fait le goût du pouvoir. Des choses comme ça.
Annick, je vous propose d'entendre une autre voix, la voix de Charles-Étienne, donc cet homme mal dans son enveloppe charnelle. Marlène le disait, rouquin squelettique chlorotique. La femme, Marlène, avec laquelle il va tisser des liens. Alors on écoute Charles-Étienne et Jean-Marie, c'est vous qui allez nous lire cet extrait.
Un Jean-Marie pour un Charles-Étienne. Encore un de ces petits matins.
L'heure avant les poubelles où je reste étendu sur le dos, sans bouger, pour que le temps de l'attente glisse sans obstacle sur mon corps, mon visage, ma poitrine, mon ventre, mes genoux, mais ils se heurtent à mes pieds, trop longs, comme ceux des morts. Ici aussi, le petit déjeuner ne commence pas avant 7h30. Je devrais essayer de me coucher plus tard, de lire un peu au lit pour rester éveillé, ou de rester à boire des verres avec le groupe, de me faire accepter, même s'ils ont tous l'air de penser que c'est vrai que le 13 porte malheur. Étendu sur le dos, les yeux fermés pour que les minutes s'écoulent sur mes paupières, j'attends patiemment qu'il soit 7h15. Si c'était un mardi ordinaire de novembre, ce serait l'heure où j'entrerais dans la cuisine, tâtonnant pour trouver l'interrupteur et la lumière familière du plafonnier refoulerait l'obscurité derrière les vitres. Café au lait, 3 biscuits à l'avoine, parce que le pain est toujours sec, les confitures moisissent. Dehors, il fait noir. Parfois il pleut, parfois le vent agite les ombres des arbustes du jardin. Y a-t-il quelqu'un dehors ? Quelqu'un dont le visage apparaîtrait soudain à la fenêtre, un rôdeur nocturne, un porteur de nouvelles qui changerait le cours de la journée. La radio est muette. Depuis plusieurs semaines, j'ai oublié de remplacer les piles. Tôt le matin, les journalistes sont pressés. Ils débitent de courtes phrases fébriles, pas destinées à moi, qui s'entrechoquent hostilement. Un peu de lumière rose se faufile dans la cabine entre la vitre et le bord du rideau, le lever du soleil sur le port d'Assouan. Je ne bouge pas. L'attente est comme une vague qui passe et repasse sur mon corps étendu, comme ces statues de pierre qu'on appelle, je crois, des gisants, ou comme un cadavre rejeté par la marée. Comme à la maison le dimanche matin, quand je reste au lit à guetter le claquement des volets sur les murs des villas du quartier, les premières voix lointaines par-delà les haies. Des moteurs de voitures démarrent gaiement avec un crépitement frais de trompettes, le journal, les croissants qui crissent sous la dent pour le petit déjeuner du dimanche. Avec maman, on n'allait pas à l'église. « Pourquoi faire ?» elle disait. « Dieu s'est foutu de moi, tout pour les autres, et pour moi, rien. » elle disait en me toisant. « Pourquoi j'irais lui chanter des cantiques ?»« Moi, je ne sais pas si Dieu s'occupe de moi. » Mais quand les cloches commencent à sonner, éclatant dans le ciel du matin du dimanche, j'ai l'impression d'avoir rendez-vous avec quelqu'un.
Nous venons d'entendre, merci Jean-Marie, un extrait de Une croisière sur le lac Nasser, Sylvia Ritchie-Lempen, un roman que vous signez aux éditions de l'Air. Vous avez choisi de nous faire entendre 4 monologues intérieurs. Dans quelle mesure les personnages se parlent-ils ? Chacun reste chez soi ?
Vous entendez dans la vie réelle, enfin
dans la vie réelle, dans le roman, dans la vie réelle.
Oui, non, mais
j'aimerais que les auditeurs
dans leurs échanges réels,
exactement,
je veux dire. Alors,
comment en fait vous faites fonctionner ces 4
alors
monologues?
J'ai dû déployer pas mal d'astuces parce qu'en fait mon idée c'était que on comprenne petit à petit d'une part qui sont ces personnages et d'autre part quelles sont leurs relations réelles sur ce bateau, mais par petites touches, par construction progressive d'un puzzle. Et donc en fait on comprend les vrais échanges verbaux qui se passent entre certains d'entre eux par la remémoration que s'en font les uns et les autres. Il n'y a pas de narratrice omnisciente et donc on doit se fier à ce que se racontent les uns et les autres sur les échanges réels ou imaginaires qu'ils ont eus avec les autres.
Ça veut dire quatre monologues intérieurs et puis quatre points de vue.
Oui,
c'est
exactement.
Pas facile, ça.
Alors, de temps en temps, mais c'est assez rare, parce que les monologues sont... Il y a des heures hein, qui indiquent à quel moment de la journée se passent ces monologues. Et de temps en temps, il y en a deux, trois, voire quatre, voire tous les quatre, qui se parlent à eux-mêmes en même temps.
Et donc ils convergent d'une certaine manière. Ouais.
Donc on a des visions complètement différentes d'un même moment identique. Il y a notamment à un certain moment une fête nubienne costumée sur le bateau. Et là, on a trois points de vue, trois personnages qui, au même moment, se disent à eux-mêmes ce qu'ils sont en train de vivre à ce moment-là.
Mais c'est véritablement une pensée, une parole pensée que vous reproduisez là. Ce ne sont pas, par exemple, des propos retranscrits sur un journal intime.
Oui.
On pourrait faire la confusion par moment, d'ailleurs.
Alors, effectivement, j'ai essayé de montrer que ce sont vraiment les pensées qu'ils ont dans l'instantanéité. Bien entendu, c'est extrêmement difficile. C'est l'exercice le plus difficile auquel les écrivaines et les écrivains sont confrontés. Il y a des géants qui s'y sont collés. Si je prends par exemple Nathalie Sarraute, elle a fait ça dans un tout autre genre que celui que modestement j'ai essayé d'appliquer. Mais quelqu'un comme Nathalie Sarraute, elle essaye vraiment de faire ça, de montrer à quoi le personnage est en train de penser dans l'instant précis de la narration.
Avec toutes les incohérences que ça pourrait
voilà,
susciter.
Voilà, exactement. Hein. Chez moi, c'est les phrases sont moins courtes, la pensée intérieure est plus construite, mais je ne pense pas qu'il y ait une recette qui vaut pour tout le monde.
Pas de recette, Sylvia Ritchie-Lempen, mais beaucoup de travail, ça j'en suis sûre. Je me demandais comment vous aviez construit tout ça. J'aimerais quand même préciser que ça fonctionne alors parfaitement bien, parce que vous créez un univers. Il n'y a pas de difficulté à lire ce roman, et il n'y a pas de difficulté à s'y retrouver, ni dans le temps, ni dans le lieu. Enfin, le lieu, c'est pas difficile, on est entre le bateau ou les monuments nubiens.
Ni dans l'action.
Mais on s'y retrouve. Mais Jean-Marie, vous l'avez lu, ça fonctionne très bien. On se crée son propre univers en vous lisant. Et puis, vous corsez les choses en prenant des hommes et des femmes. Donc, vous vous glissez dans les consciences d'hommes, de femmes, d'âges différents, avec des professions très, très différentes. Vous avez beaucoup transpiré pour faire ça. On parlait de chaleur sur le bateau.
Bon, c'est une banalité de dire qu'en tant que femme, il m'est plus facile de me glisser dans la peau d'une femme. Mais c'est quand même vrai jusqu'à un certain point, parce que le personnage de Marie m'est tellement étranger que j'ai dû vraiment faire... C'est probablement celui qui m'a le plus coûté, tellement il m'est étranger, le personnage de Marie, de la chef de cuisine. Donc. Donc oui, il faut faire un effort énorme de dépossession de soi pour entrer à chaque fois dans la peau des différents personnages. Je pense que ce que j'ai essayé de faire, c'est justement, comme je l'ai déjà esquissé tout à l'heure, de ne pas les faire apparaître tout blanc et tout noir, ou tout noir, parce que c'est jamais tout blanc ou tout noir qu'une personne normale se perçoit soi-même. On passe de l'autosatisfaction à l'autodévalorisation dans la même fraction de seconde, et j'ai essayé de restituer ça.
Sylvia Ritchie-Lempen, on va à nouveau, si vous le voulez bien, donner la parole à cette brave Marlène, ce personnage que j'aime par-dessus tout, enfin par-dessus tous les autres. C'est une femme douée d'un redoutable sens de l'observation, et c'est toujours Heidi Kipfer qui prête sa voix à Marlène.
Les six sens sont la vue, l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat et la vieillesse, qui altère les sensations produites par les cinq autres, qui instille le doute sur leur utilité. La vapeur fraîche exhalée par le Nil hier soir sur la barque chargée de spectateurs palpant dans leurs poches les billets du son et lumière sous l'œil dédaigneux des bateliers. Est-ce que c'était hier soir? J'ai peur de perdre la mémoire. Que mon monde intérieur devienne comme un nuage, sans haut ni bas, ni avant ni après. Le clapotis de l'eau, noir comme du goudron, l'éclat de fête foraine de l'île illuminée. C'est sur cette île, nommée Agilikia, que l'on a rebâti les temples bloc par bloc lors de la construction du haut barrage d'Assouan. Les guides, pour éviter de briser l'enchantement, ne disent pas si la vraie Philae existe encore sous la forme d'un de ces buissons fantomatiques où ne brille aucune lampe qui parsème le fleuve ou bien si elle est complètement submergée. Le remous des touristes m'est semblable quand la barque a accosté au débarcadère. Si l'un d'eux, par hasard, m'avait prêté attention, il aurait eu pitié de moi à cause du peu d'espace occupé par mon corps sur la banquette, de l'immobilité muette de ce corps pathétiquement entêté à survivre, à emprunter des moyens de transport pour visiter des pays inconnus, comme s'il y avait encore quelque chose à attendre du défilement des années de la vie. Les veuves comme moi, et les femmes sans hommes de toute espèce, en général, font des voyages de groupe, ou bien partent à deux, comme les deux Françaises d'en face, l'une divorcée et l'autre vieille fille. Qu'est-ce que tu en sais, aurait dit Roland. Les hommes sont nuls pour voir ce genre de choses. Moi, je n'aime pas les confidences, ni les recevoir, ni les faire. Quel manque de dignité, déverser ses soucis dans des oreilles humides, complaisantes. Hanele, Fräulein Ritter, le pasteur, avide de me consoler. Lauf nicht weg, Marlene, Marlene. Ich möchte mit dir nach der Klasse reden. Dein kleiner Bruder ist jetzt bei Gott.
Espace 2, entre les lignes, ces sonorités au climat intériorisé sont l'œuvre du groupe Dakota Sweet. C'est un album paru en 2011 que j'ai choisi pour entourer le récit polyphonique de Sylvia Ritchie-Lempon, récit intitulé « Une croisière sur le lac Nasser ». Un groupe de voyageurs francophones se retrouve sur un bateau de croisière pendant 3 jours et demi pour découvrir les charmes de l'Égypte ancienne. À travers le récit intérieur de 4 d'entre eux, le lecteur découvre des personnalités complexes faites de désirs et de rancœur. Des personnages qui sans doute nous ressemblent un peu. Alors je crois qu'on l'entend bien, Sylvia Ritchie-Lempon, à travers ces monologues intérieurs, les personnages que vous avez créés possèdent tous, en tout cas une fêlure, à moins qu'il ne s'agisse vraiment d'une rupture profonde.
Oui, effectivement, mais j'ai presque envie de vous dire, mais qui de nous n'en a pas ?
Vous avez raison.
Alors, soit c'est des fêlures, effectivement, comme dans le cas de Louis, qui est ce journaliste à succès auquel il n'est jamais vraiment arrivé quelque chose de désastreux, mais qui porte en lui des mémoires d'enfance, des choses familiales difficiles, qui ne l'empêchent pas de jouir de la vie, mais qui sont quand même là. Ou bien alors, dans le cas de Marlene, effectivement, des drames beaucoup plus lourds. Un mariage peu, peu gratifiant et surtout le problème d'un fils qui, comme on dit, a mal tourné.
Annick.
Des drames, mais des drames personnels, et puis des petites rancœurs, disait Jean-Marie. Par opposition à ce paysage qui défile tranquillement, la musique était très bien choisie, parce qu'on voit que le temps s'écoule en même temps lentement. Une opposition, un contraste comme ça que vous avez voulu entre ces paysages plus ou moins immobiles, et puis ces petites déchirures et ces grands drames intérieurs très humains.
Oui, j'ai essayé de faire du paysage une sorte de basse continue qui accompagne tout le récit. De temps en temps, l'un ou l'autre des personnages, effectivement, avec des mots qui sont chaque fois différents, ça a aussi été un travail de donner à chacun la possibilité de s'exprimer sur ce paysage qui, au fond, est toujours le même, avec des mots qui ne sont pas ceux des autres personnages. Mais effectivement, il y a cette espèce de lenteur, de continuité qui est inscrite dans le paysage. Cette grandeur aussi du paysage qui rappelle un paysage de création du monde. Et puis la petitesse, le caractère assez mesquin finalement.
Vous alliez dire médiocre ? Médiocrité ?
Non, j'allais dire mesquinité, et puis j'ai eu peur de faire un italianisme.
Mesquinerie,
voilà.
C'est bien aussi.
C'est le mot italien qui me venait, je me suis dit non,
vous
c'est
êtes
pas
en train
juste
de vous réapproprier votre langue maternelle.
Voilà.
Nous en avons la preuve.
J'aimerais qu'on entende encore le texte, et je vais choisir trois mots, charme, érotisme, désir, trois mots pour deux personnages. Marie, la chef étoilée du Michelin, que l'on imagine pulpeuse, brûlante et un brin vulgaire. Et Louise, le journaliste radio, égocentrique et sûr de son potentiel de séduction. Je vous propose de les écouter grâce à vous, Jean-Marie, et tout de suite Heidi. Leurs monologues sont saisis à quelques heures d'intervalle, d'abord lors d'une visite à terre, puis à nouveau sur le bateau, au bord de la piscine.
Le bleu qui prend à la gorge s'engouffre dans la poitrine, mille fois trop étroite pour le contenir, le bleu dessus, autour, entre les piliers et les colonnes du kiosque de Kertassi, dans la cassure du soleil. Le blanc de ma chemise en crépon de coton, la fraîcheur de la fibre rêche sur la peau. Ce matin, en m'habillant, j'ai imaginé cela, l'éclat de cette chemise sur l'excès de bleu. J'ai imaginé ce qui est en train de se produire, le vieux scénario qui semble toujours neuf, toujours plus excitant que les fois précédentes, la morsure des lacets, le craquement des écailles, le fourmillement des têtes d'épingles du désir. Crème dorée sur la peau, sous la chemise râpeuse. Santal rouge, jasmin, amande amère. Dans l'interstice entre la peau et l'étoffe, le duvet soyeux de la sueur, la gloire des cellules. Blanc écume, bleu gouffre. Pendant que Farid décrit le monument, il commence à jouer la première scène. Ni vu ni connu, grâce aux lunettes de soleil féline, un peu bombées, genre champion de slalom, et aux larges bords de son chapeau en feutre, une coquetterie par 33 degrés à l'ombre. Son regard dévie des faces triangulaires d'Hathor, sur les chapiteaux des deux piliers du kiosque, écoule de pied, sans torsion de la tête, vers la zone occupée par Steph et moi, inégalement occupée par nos deux corps. Steph remplace mon ombre, quasi inexistante sous le soleil vertical de midi. Elle est mon ombre obstinée de toutes les heures. Je refoule l'envie de m'écarter de ce faux double, de l'air. De l'air, Steph. Bon Dieu, un peu d'air.
Je vais tenter une manœuvre. Je vais me lever de l'air résolu, mais vaguement indolent, avec lequel on poursuit en vacances des buts minuscules et sans commune mesure avec les buts importants de la vie. Je vais extraire mon porte-monnaie du sac de plage pour signaler que je fais un saut au bar. Le petit, juste là derrière, genre buvette de la plage, pas le bar principal du pont d'en dessous. Sinon, je ne laisserai pas toutes mes affaires sur le transat, mon chapeau noir, le time et même l'iPod. Je vous informe que je vais boire un verre à l'ombre pendant que ma femme se rafraîchit dans la piscine. Devra signifier ma démarche désinvolte et j'espère séduisante, de presque quadragénaire, pas encore affligée d'un ventre proéminent, au moment où je frôlerai ses orteils laqués de rose corail, m'interposant entre elle et le soleil. Elle se lève, dépliant son corps luisant comme un marron, fermement contenu par le bikini noir, sauf les seins qui ondoient au moment où le buste passe à la verticale, sous la poussée des reins. Je jouis, ébloui de la parfaite réussite de ma stratégie de communication. Mais pas du tout. Elle se limite à rabattre son dossier pour s'étendre à plat ventre sur le transat. Je sens sans l'entendre le grincement des charnières sous son poids élastique et consistant. Maintenant, son visage est tourné vers le bar, pas vraiment vers moi, mais vers la zone où je me tiens, exemplairement patient, un verre de coca à la main. J'essaie d'attraper son regard faussement circulaire, qui passe et repasse sur moi sans se fixer. Soudain, elle enfouit sa tête dans ses bras croisés, comme quelqu'un qui aspire à s'endormir. J'observe à distance ses jolis coudes ronds et une boucle d'oreilles rose corail, comme ses ongles des pieds qui miroitent entre ses cheveux noirs. Elle ne dort pas, elle fait seulement semblant, son immobilité est trop démonstrative. Est-ce que c'est un jeu fait pour irriter le désir? Et dans ce cas, quel coup je suis censé jouer? Nous avons peu de temps à n'importe quel moment, Mélanie peut revenir de la piscine. Ou est-ce que c'est à cause de l'autre, son ami verdâtre, qui fait semblant de lire sans se retourner, mais qui a des yeux derrière la tête, avec lesquels elle nous surveille implacablement, elle surveille nos monnaies secrètes.
Deux extraits de Une croisière sur le lac Nasser, paru aux éditions de l'Air. Deux personnages qui se désirent, qui se cherchent, qui se draguent, disons-le plus clairement. C'est une stratégie de communication, en tout cas de la part de Louis. Il y a Marie la sexy qui tente d'échapper à l'amour envahissant de Steph, sa compagne verdâtre de voyage. Et Louis le dragueur qui essaye de semer sa femme Mélanie. Alors tout se dit dans le silence à travers les monologues intérieurs, mais le corps n'est pas absent, bien au contraire, Sylvia Ricci-Lempen. Certains prennent peu de place, d'autres semblent occuper l'espace. Les corps disent autant que les voix intérieures.
Oui, c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas construire un personnage si on n'en a pas une représentation physique très prégnante. J'ai constaté ça à chaque fois que j'ai écrit un roman. Tant que je ne me fais pas une image très précise, très détaillée, très sensuelle du corps d'un personnage, le personnage ne peut pas fonctionner. C'est comme ça.
Vous dites sensuel, mais Charles-Étienne est tout sauf sensuel.
Non,
pourtant,
mais
son
je
corps
veux
existe.
Dire, oui,
hein.
Steph
non
plus.
Ouais. Sensuel, bon, le mot, effectivement, vous faites bien de me corriger sur ce mot, c'est pas le bon mot, mais je voulais dire qui touche les sens, qui touche les sens du lecteur. Le lecteur doit pouvoir se représenter physiquement ce personnage, sinon le personnage n'est pas crédible.
Vous avez parlé de l'humanité en chacun d'entre nous, mais vos textes, souvent, Sylvia Ricci-Lempen, sont aussi très, très cruels. Alors, qu'est-ce qui est cruel? Les hommes, les femmes, les relations, la vie?
Alors, il y a plusieurs choses. Je ne pense pas que les hommes soient plus cruels que les femmes, ni que les femmes soient plus cruelles que les hommes. Les relations, oui, parce que foncièrement, ce qui est cruel, mais en même temps inévitable, c'est notre égocentrisme à tous. Je ne parle pas d'égoïsme, je parle d'égocentrisme. Nous sommes tous, au fond, centrés sur l'obtention d'une gratification pour nous-mêmes, ce qui est forcément un obstacle à une relation ouverte, généreuse. Je ne dis pas que ce type de relation n'existe pas. D'ailleurs, une relation de ce genre va se construire plus ou moins entre deux de mes personnages, Marlène et Charles-Étienne.
Oui, c'est l'amitié inattendue et improbable.
Voilà, là, oui. Mais disons, les relations humaines sont dures. Et puis, ce qui est dur aussi, j'aimerais l'ajouter, c'est notre époque. Cette histoire, je pense qu'elle pourrait pas se situer il y a 20 ans, parce que, pas seulement à cause du fait que la technologie y joue un certain rôle, le problème qu'il n'y a pas de réseau sur le lac Nasser, ça c'est sur, pour certains des personnages c'est très important, mais aussi parce que notre époque, je crois qu'il faut l'admettre, est une époque qui favorise l'égocentrisme.
Alors là, je vous interromps deux secondes, Sylvia Ricci-Lempen, parce que vous éclairez un point dont on n'a pas parlé du tout. Vous commencez votre livre par plusieurs pages sur un événement qui se passe le 9 novembre 2008, la mort de Myriam Makeba dans un village italien, une mort qui suit de quelques jours, oui. L'assassinat, le massacre de plusieurs Africains, un massacre qui n'a jamais vraiment été élucidé. Alors, ce moment-là qui est ancré dans le temps et dans l'actualité, c'est important pour vous et
oui,
pourquoi ?
Oui, c'est un moment qui n'a rien à voir avec oui. l'histoire, mais qui, sauf qu'il se passe à la veille
oui, du départ.
Du début de la croisière, et qui est là pour allumer une espèce de petite ampoule dans l'esprit des lectrices, des lecteurs, pour leur dire, ben voilà, on va vous montrer des personnages qui sont préoccupés surtout d'eux-mêmes et d'elles-mêmes, et en même temps, dans le monde, voilà ce qui se passe. Et ces personnages le savent ou ne le savent pas, s'y intéressent un petit peu et s'en fichent beaucoup.
Et sur
voilà
le bateau, s'en fichent de tout. Il n'y a pas de téléphone portable, ils ne lisent pas le journal.
Voilà le monde dans lequel nous vivons.
Sylvia Ricci-Lempen, à regret, une croisière dure 3 jours et demi. Une émission entre les lignes dure 53 minutes. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose, Annick.
Non, je voulais juste signaler, mais je vous le laisse
la revue
faire.
Des belles lettres.
Voilà,
non,
la revue des belles lettres. Vous participez donc à cette revue, Paroles de romancier, où vous dites tout l'amour que vous éprouvez vraiment pour une auteure italienne qui est
Melania Mazzucco.
Voilà, dont les romans ont l'air, je n'ai rien lu encore, mais je vais lire, je vous promets, assez cruel également.
Ouais. Je la recommande aussi aux auditrices, auditeurs. Plusieurs de ses romans sont traduits en français.
Melania Mazzucco.
Eh bien, de mon côté, je recommande chaleureusement à nos auditeurs de Entre les lignes votre dernier roman, Sylvia Ricci-Lempen, Une croisière sur le lac Nasser. Il a paru aux éditions de l'Air. Entre les lignes, vous était proposé par Annick Chouin et Jean-Marie Félix. Kim Tanguay, assisté de Alexandre Davoine, a assuré la diffusion de cette émission. Heidi Kipfer, la lecture des textes, et Madeleine Techer, l'assistance à la production. Souvenez-vous qu'Entre les lignes possède sa page internet. Vous y trouverez de quoi réécouter ou télécharger nos émissions et quelques liens biblio ou discographiques. Pour y parvenir, comme toujours, vous tapez rts.ch/entre-les-lignes en un seul mot. Demain, Christine Gonzalez recevra François Garde, auteur d'un roman paru chez Gallimard, ce qu'il advint du Sauvage Blanc. Tout à l'heure, après les informations, vous aurez rendez-vous avec Yves Bron, entouré de l'équipe de Dardard, pour un tour d'horizon de l'actualité culturelle sur les scènes de Suisse romande. Vous écoutez RTS Espace 2, il est très exactement midi.